lundi 10 décembre pour le conseil municipal. Nous allons commencer par l'appel. Valérie Aubry. Merci.
Alors, M. Hervé Stassinos, M. Christian Garnier, Mme Valérie Rialan, Mme Josiane Sicardi, M. Pascal Campins, Mme Cécile Gomez, M. Jean-François Plane, Mme Bérénice Bonal, M. Jean-Michel Perratou, M. Paul Moureau, Mme Magali Vincent, Mme Céline Pratier-Évier, M. Denis Chambly, Mme Viviane Thiard, M. Jean-Claude Véga, Mme Bénédicte Lemoigne, M. Daniel Vessereau, M. Daniel Duvoux, Mme Agnès Diazuto, Mme Valérie Aubry, présente, M. Jean-Marc Illich, Mme Dominique Roland, Mme Nicole Roux, M. Lionel Riquelme, M. Patrick Rouas, Mme Nicole Vaca, M. Frédéric Fior, M. Stéphane Beltrat, Mme Jennifer Dely, M. Yves Parent, Mme Emmanuelle Negrelli, M. Olivier Durand, M. François Meurier.
Merci, et j'ai reçu les pouvoirs de Nicole Vaca pour Jennifer Dely, de Mme Negrelli pour Frédéric Fior, Patrick Rouas pour M. Jean-François Plane, Christian Garnier pour Hervé Stassinos, Dominique Roland pour Valérie Rialan et Magali Vincent pour Cécile Gomez. Voilà, donc cette session du conseil municipal peut commencer avec l'approbation du PV de la dernière séance du 24 septembre, compte rendu, qui est contre. 2, 3, 4. Monsieur Fior, vous souhaitez prendre la parole, j'ai l'impression. Alors je vous en prie, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous la donne.
Merci, monsieur le maire, de bien vouloir nous donner la parole de temps en temps. Sur ce procès-verbal, je voudrais vous réitérer le fait que, au regard de l'absence de tout élément dans ces procès-verbaux, entre guillemets, nous voterons contre. Néanmoins, je voudrais vous demander comment se fait-il que les comptes rendus audio précédent conseil municipal, celui du 24 septembre, ont été mis en ligne sur le site internet de la ville que le 5 décembre. Donc comment expliquer près de 3 mois de retard sur ces comptes rendus audio? Premier point. Deuxième point, en matière de communication sur les élus, le site de la ville faisait apparaître très récemment, peut-être encore aujourd'hui, je vous laisse regarder, dans les élus, le doublement de la représentation de mon cher collègue du Front National, puisqu'il avait la chance d'avoir 2 élus du Rassemblement National, excuse-moi, il avait la chance d'avoir 2 élus qui apparaissaient depuis un certain nombre de mois. Donc, comme il me semble que la personne qui apparaît a démissionné depuis fort longtemps, est-ce qu'il serait possible d'avoir une mise à jour de cette information vis-à-vis des Pradétans? Merci.
Bien sûr, on va regarder ça et on rectifiera s'il y a une erreur. Aucun problème. Concernant la première question, et bien c'est mis en ligne, je crois que c'était mis en ligne le 5 décembre. Si vous souhaitez que ça soit mis en ligne avant, on verra si on peut le faire pour la prochaine fois.
Excusez-moi, mais à partir du moment où un conseil municipal se déroule le 24 septembre, est-ce que vous trouvez normal que l'information au Pradétans soit portée que le 5 décembre? Est-ce que vous trouvez, oui, est-ce qu'il y a des difficultés techniques à mettre un compte rendu audio au bout de 2 mois et demi? Ça vous semble normal? C'est quelque chose qui vous semble de bonne gestion?
Voilà, comme je viens de vous le dire, si vous souhaitez qu'on mette le compte rendu avant, on va regarder si on peut le faire avant, ça devrait être possible, tout simplement. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Donc voilà. Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 1, ça concerne TPM et l'approbation des conditions de transfert et de mise à disposition relative aux agents exerçant les compétences transférées dans le cadre de la création de la métropole. Vous le savez, ça a été évoqué déjà durant plusieurs conseils municipaux. On passe en métropole. Dans le cadre du passage en métropole, il y a le transfert d'un certain nombre d'agents à la métropole pour toutes les communes. En ce qui concerne la commune du Pradet, ça s'est traduit par 29 agents qui sont transférés à 100%. Ceux-là sont transférés de plein droit à la métropole. 3 agents sont transférés entre 50 et 80% et 7 agents sont transférés à moins de 50%. Donc, ces conditions, ces modalités de mise à disposition ou de transfert de personnel vers la métropole, ça a été discuté en comité technique TPM, en comité technique du Pradet, ça a été adopté à l'unanimité. Donc, vous avez dû prendre connaissance des modalités, ça ne change rien pour les agents. Pas de modification, sachant que c'est un peu le meilleur des mondes qui leur a été offert. Ils pouvaient garder ce qui se passait dans leur commune d'origine ou adopter les règles et les modalités, enfin plutôt le cadre dans lequel les agents de la métropole exercent leur mission. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce transfert. Monsieur Muriel, allez-y.
Bonjour à tous. Je vais voter contre cette délibération. Au Rassemblement national, nous sommes opposés au choix politique de la métropolisation, ce nouveau paradigme de l'urbanisation et des flux économiques. Sur les agents transférés, je ne vois pas dans le dossier joint l'avis du comité technique en date du 29 novembre 2018. Ça aurait été intéressant d'avoir vraiment un dossier un peu plus complet. Nous n'avons pas non plus de descriptif sur les postes concernés par ces transferts. Sur l'organisation du travail, on nous dit que pour ne pas déstructurer le fonctionnement des services sur le territoire de chaque commune, l'organisation du travail sera identique à aujourd'hui. Donc c'est en page 5 de la fiche d'impact. Mais parallèlement, des antennes métropolitaines dirigées par des responsables hiérarchiques vont être créées. Pouvez-vous nous expliquer cette organisation? Enfin, à la lecture des documents, j'ai le sentiment d'une complexification de l'organisation des ressources humaines. Exemple, vous, monsieur le maire, continuerez à exercer le pouvoir disciplinaire. En cas de litige avec un agent, vous serez saisi par la métropole. C'est l'article 3 de la convention de mise à disposition en page 2. Ce qui signifie qu'il y aura un interlocuteur de plus dans la résolution d'un problème, ici disciplinaire. Elle est où la rationalisation? Pour terminer, il est indiqué dans les avantages acquis que la prime de fin d'année versée par TPM est supérieure à celle de la commune et qu'elle sera versée aux agents concernés au prorata de leur temps de travail. Quel est son montant? Et si un agent exerce à 50% pour la commune et à 50% pour TPM, recevra-t-il une demi-prime de fin d'année de chaque? Pourquoi pas directement un alignement de la prime de fin d'année sur celle que hier verse à ses agents qui est la plus haute des 12 communes de TPM. Voilà. Merci.
Il y a plusieurs questions dans votre intervention. Une question concernait l'organisation à venir par rapport à la métropole. Bon, on est passé en métropole. J'ai bien compris la position du Rassemblement national, anti-métropole, contre la métropole. On avait déjà transféré quand même pas mal de compétences depuis de nombreuses années, sur l'assainissement par exemple. Voilà. Il y a une décision qui a été prise à l'unanimité des maires de la commune, des équipes communales, de passer en métropole. Et à partir du moment où on passe en métropole, effectivement, on passe en métropole, c'est-à-dire qu'on transfère des compétences. Et il faut. C'est bien naturel quand on transfère des compétences de transférer des personnels qui sont attachés à la compétence, sinon on ne peut pas rendre le service. Donc il y avait une nécessité de transférer le personnel en même temps qu'on transférait les compétences. Concernant le fonctionnement des antennes, on a souhaité, tous les maires ont souhaité, qu'il y ait un fonctionnement qui reste un fonctionnement non pas centralisé, mais un fonctionnement au plus près des communes. Les personnels qu'on transfère, ce sont soit certes des gens qui passent en fiche de paye TP, mais ça reste des agents qui travaillent dans la commune pour certains depuis 15-20 ans, des gens qui connaissent les problèmes de la commune, des gens qu'on va continuer à piloter. Donc pour un certain nombre de compétences, notamment la voirie, le nettoyage, sont des gens avec qui on travaille au quotidien, avec qui on continue à travailler au quotidien, tout simplement. Donc, voilà. Monsieur Fior.
Je suis un peu étonné que sur un sujet aussi important que celui-là, aussi structurant, aussi majeur, vous n'ayez organisé.
c'est pas très raisonnable, c'est pas très satisfaisant, c'est pas très bien d'avoir fait ça. D'une part parce qu'on avait quelques compétences sur le sujet, mais même simplement en termes démocratiques, ça me semblait une impérieuse nécessité. Sur cette délibération proprement dit, contrairement à ce que vous avez indiqué, les agents qui sont inférieurs à 50% pour la métropole ne sont pas transférés. Déjà. C'est ce qui est écrit, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas les agents qui sont inférieurs à 50% qui sont transférés. Ils restent salariés, entre guillemets, de la commune et ils sont mis à disposition à hauteur du pourcentage pour lequel ils travaillent sur la compétence. Mais ça, c'est anecdotique. L'important, c'est qu'aucune information ne nous a été délivrée. Et pour ça, on va s'abstenir, alors que sur le fond, on n'a aucune opposition sur ce principe-là. Mais compte tenu qu'on est mis devant le fait accompli systématiquement et qu'on n'a aucune information, on va s'abstenir. Merci.
Je vous invite à relire donc ce qui est écrit. Seuls les agents dépassant les 50% au service des missions deviennent salariés de la métropole. Donc c'est jusqu'à 80% en fait. D'accord, c'est parce qu'ils lisent ce qui est écrit qui compte. Voilà. Très bien. Alors on va. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions,
lisez votre délibération.
Tout à fait. Madame Dely.
Merci. Donc, je souhaiterais lire la délibération qui indique, seront prises à compter du 1er janvier, je sais, sur la page de dos, 7 agents sont transférés à moins de 50%. Donc nous,
on est bien d'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je voudrais revenir sur le fait que ce sont des sujets qui ont été abordés à de nombreux conseils municipaux. Est-ce que je peux finir de parler quand même? Ben voilà, ça tombe bien. Donc c'est des sujets qui ont été abordés au travers de différents conseils municipaux. Donc c'est pas la première fois qu'on aborde ça. Maintenant, il y a des élus métropolitains qui discutent de toutes ces choses-là. Il y a aussi, au sein de la métropole, il y a aussi des élus d'opposition qui expriment leur voix. Voilà. Donc la démocratie, elle vit au sein de TPM. Et elle vit très correctement. Chacun peut exprimer son avis au sein de l'Assemblée communautaire.
Merci de ces informations. Sur le premier point, ça serait bien nouveau si vous répondiez aux questions qu'on vous pose lors des conseils municipaux. Donc, vous pouvez mettre des points à l'ordre du jour obligatoires liés à la métropole ou à la communauté d'agglomération. Ce n'est pas pour autant que vous nous apportez des informations. Il n'y a qu'à voir les délibérations que vous mettez, comme elles sont exhaustives et complètes. Deuxièmement, vous nous dites qu'il y a une opposition à la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée. Bon, et depuis quand les représentants de l'opposition ici, en tout cas nous, qui sommes non encartés politiquement, on est représentés à la métropole. Les seuls représentants qu'on a à la métropole, c'est vous, monsieur le maire, vous et madame Rialan. Et vous savez très bien que la loi vous oblige à rendre compte de votre activité en tant que conseiller métropolitain pour madame Rialan et de vice-président métropolitain pour monsieur le maire. Au sein du conseil municipal. Vous ne le faites jamais. Ce n'est pas parce que vous mettez une délibération à l'ordre du jour, rapport d'activité avec 3 photos et 10 commentaires journalistiques, que c'est un rapport, un compte-rendu de l'exercice de vos compétences en tant que conseiller métropolitain. Voilà. Donc il faut dire les choses clairement. Vous ne pouvez pas nier qu'il n'y a eu aucune commission. On a été invité à rien du tout sur la métropole. Rien du tout. Voilà. C'est pas un sujet important? Ça n'impacte pas la vie des gens? On ne transfère pas des millions d'euros? On ne change pas les compétences de la commune? Rien du tout. Voilà la vérité.
Comme je le disais, tous ces sujets ont déjà été abordés en conseil municipal à de nombreuses reprises. Ça a fait l'objet de débats, ça continue aujourd'hui. La démocratie, elle est là, elle est bien vive et chacun peut s'exprimer. D'ailleurs, on va aller jusqu'à voter. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? La démocratie s'est exprimée. Question numéro 2, ça concerne le rapport d'activité. Vous voyez, encore un sujet sur la métropole, comme quoi on en parle beaucoup dans les conseils municipaux. Donc, cette deuxième délibération concerne le rapport d'activité de la communauté d'agglomération de TPM, Toulon-Pradet-Méditerranée, pour l'année 2017. Alors, ce rapport concerne, on parle bien de l'année 2017, donc ça porte sur les compétences suivantes, transport et déplacement, aménagement d'espace, développement économique, enseignement supérieur et recherche, tourisme, ouverture maritime, les ports départementaux, la culture, le sport, l'habitat, la politique de la ville, la voirie communautaire, l'assainissement des eaux usées, l'environnement et le cadre de vie, la collecte des déchets ménagers et un certain nombre de fonctions, support et ressources. Voilà. Donc vous avez dû prendre connaissance du rapport d'activité 2017. Quelques chiffres peut-être concernant les différentes compétences pour 2017 de TPM. Tourisme et ouverture maritime, près de 4 millions en fonctionnement, 3,9 millions exactement, 0,85 millions d'euros en investissement, avec notamment le transfert de la compétence tourisme et la création de l'office intercommunal de tourisme, et avec un fonctionnement en trois pôles, nous sommes rattachés au pôle de Guerre. Ensuite, une des grosses délégations, une des grosses compétences de la métropole, bien sûr, transport et déplacement. Pour rappel, près de 61 millions d'euros sur la section de fonctionnement et 9 millions d'euros pour la partie investissement, 9 millions 4 exactement. Donc ça avance sur le TCSP. Les tarifs ont été gelés pour la 11e année consécutive, ce qui en fait un des tarifs les moins chers de France. La mise en place de l'observatoire du plan de déplacement urbain. Aménagement de l'espace, près d'un million de fonctionnement, avec notamment le SCOT. Le SCOT a été voté cette année, je crois qu'il y a un mois. Voilà, donc élaboré pendant deux ans, voté en 2018, donc, il y a quelques semaines, avec un grand volet maritime. Développement économique, 5 millions d'euros sur le fonctionnement, 8 millions d'euros sur l'investissement. Accueil à la création d'entreprises et aux investissements privés, animation du tissu économique local et développement des réseaux d'entreprise. Soutien aux filières agricoles, aquacoles, horticoles et développement d'une stratégie foncière avec la Chambre d'agriculture. Le marketing territorial, bien entendu, pour renforcer l'attractivité du territoire. Enseignement supérieur et recherche, 0,9 millions d'euros en fonctionnement, près de 6 millions d'euros d'investissement. Accompagnement et financement des établissements d'enseignement supérieur. Déploiement d'une politique de soutien à la vie étudiante. Soutien financier aux projets de recherche et aux pôles de compétitivité, notamment le pôle mer. Les ports, avec 10 millions d'euros en fonctionnement et 9 millions d'euros en investissement. La culture, la deuxième plus grosse compétence après les transports, avec 32,2 millions d'euros en fonctionnement et 4,2 millions en investissement. Les financements d'équipement, des financements pour les festivals et les spectacles vivants, le conservatoire, 36 000 élèves pour 96 disciplines enseignées. Ouverture en 2019, pour rappel, pour ceux qui l'auraient oublié, de la nouvelle antenne du Pradet. Le pôle jeune public, plus de 30 000 spectateurs et un partenariat riche avec le Pradet. L'école supérieure d'art et de design qui offre un cursus diplômant. L'opéra, 80 000 spectateurs en 2017. La Villa Noailles, qui a été reconnue centre d'art d'intérêt national en 2017. Le sport, 6,4 millions en fonctionnement, 0,5 millions en investissement, avec un soutien à la formation des athlètes, gestion et développement des équipements sportifs communautaires, des missions d'intérêt général, avec notamment le RCT, le HTV, le Toulon Saint-Cyr Varambol, politique de l'habitat, 0,8 millions en fonctionnement, 6 millions en investissement, animation du PLH, le plan local de l'habitat, aménagement et gestion des aires de gens du voyage, gestion des projets de renouvellement urbain, essentiellement de Toulon et de la Seine-sur-Mer. Politique de la ville, 2,3 millions de fonctionnement. En lien avec l'État, il s'agit de développer des politiques de cohésion territoriale. Les voiries communautaires, 3 millions d'euros de fonctionnement et 6,6 millions d'euros en investissement, avec notamment au Pradet des travaux sur la zone de la Bayette. Assainissement, transféré depuis longue date à la métropole, 37,7 millions d'euros en fonctionnement, 11,1 millions d'euros en investissement. Environnement et cadre de vie, 3,9 millions d'euros en fonctionnement, 2,8 millions d'euros en investissement. La lutte contre la pollution de l'air et le changement climatique, gestion du sentier littoral, au Pradet notamment la mise en sécurité sur la plage des Bonnettes, la valorisation des espaces naturels remarquables avec la Colle Noire au Pradet, les contrats de baie et la mise en place d'un système d'alerte aux populations pour prévenir des risques d'inondation. La collecte des déchets, 56 millions d'euros de fonctionnement, avec 0,25 millions d'euros en investissement, c'est une compétence qui a été transférée, elle, dès le 1er janvier 2017. Voilà une synthèse du rapport d'activité. Monsieur Meurier.
Plusieurs choses. La lecture du rapport d'activité 2017 de TPM est intéressante et instructive. Ce rapport interne de TPM fait l'éloge du travail accompli et donc des choix politiques qui en sont à l'origine. Dans cette centaine de pages de papier glacé, je déplore néanmoins que le citoyen lecteur soit privé d'indicateurs officiels, comme l'évolution du taux de chômage sur le territoire métropolitain depuis 10 ans, par exemple. C'est un bon indicateur pour savoir si les choix politiques portent leurs fruits ou non. Enfin, une page sur la sécurité publique de proximité aurait pu compléter ce rapport. Pour terminer, au-delà du rapport et de l'analyse du rapport, un peu de concret. Celui de la vie, voire de la survie de nos concitoyens qui s'expriment dans la rue actuellement, à travers le mouvement d'ampleur nationale dit des Gilets jaunes. Métaphore pour dire les Français. Que leur répond la métropole ? Qui accompagnent le désengagement de l'État sur leur pouvoir d'achat. Que leur répond la métropole sur les inégalités sociales? Comment répondre à la crise de représentativité à l'échelle du territoire métropolitain? Autre question récurrente. Si la métropole exerce de plus en plus de compétences, est-ce que les indemnités de nos élus communaux diminueront proportionnellement? Voilà des questions qui devraient animer les décideurs politiques.
Peut-être une réponse, si vous insistez, je vais juste faire un commentaire plutôt qu'une réponse. Sur la position de TPM vis-à-vis des engagements de l'État, il est clair, il a été encore... clair, la dernière fois qu'il y a eu un conseil communautaire, ça a été exprimé. Je pense qu'on est tous inquiets du désengagement de l'État. Bon, les Gilets jaunes manifestent pour un certain nombre de raisons. Les élus manifestent aussi. Enfin, mais on n'est pas de Gilets jaunes. Enfin, nous aussi, on manifeste notre peur pour ce qui pourrait arriver dans les années qui arrivent. La suppression de la taxe d'habitation, bien sûr que c'est une bonne nouvelle pour tous les contribuables, ça fait toujours plaisir. Enfin, il faut quand même savoir que la taxe d'habitation, elle est évaluée entre 20 milliards et 26 milliards. Même si on prend que le chiffre de 20 milliards d'euros, il va falloir y trouver les 20 milliards d'euros. Alors on nous dit qu'on va les compenser. Moi je veux bien, j'attends, j'espère que ça va être le cas. On parle de dégrèvement, très bien. Mais 20 milliards d'euros, c'est énormément d'argent. Alors, est-ce que cette suppression de taxe d'habitation, au final, elle sera compensée, elle sera de toute façon compensée d'une façon ou d'une autre par les communes qui ont besoin de cet argent? La suppression de la taxe d'habitation, le revenu que ça représente pour les communes, ou pour les collectivités, pour le département, pour la région, pour un certain nombre de collectivités, sans cet argent, il y a soit des services publics qu'on ne va plus rendre, soit il va qu'on trouve de l'argent quelque part. Donc c'est un leurre. Cette suppression de taxes d'habitation, c'est un leurre. Ça fait plaisir, ça lui a peut-être permis d'être élu, mais maintenant c'est la course aux 20 milliards. Il faut trouver ces 20 milliards. Donc c'est vrai que toutes les collectivités sont très inquiètes de savoir à quelle sauce on va être mangé fiscalement. Un désengagement de l'État, c'est vrai, c'est vécu par toutes les collectivités, un désengagement de plus en plus fort, plus de contraintes aussi. On espère que ça va changer. Je crois qu'il y a un certain nombre apparemment, il y aura un dialogue qui sera en train de s'établir. J'espère que c'est bien le cas, on verra. Ce qui est sûr, c'est que bien sûr qu'il y a des gens qui souffrent en France. Je crois qu'on ne peut pas ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui à la télévision et ailleurs. Et je pense que c'est difficile aussi pour les collectivités. Entre la baisse des dotations, les contraintes, on est soumis aussi à la loi SRU en France, et notamment dans les villes du Var, on est particulièrement impacté. 22 communes carencées dans le Var, pas mal de pénalités à payer. Carencées ou pas carencées, on va payer de toute façon la pénalité. Hein. C'est aussi des ressources qui ne vont plus dans les communes. Donc oui, on est inquiet, bien sûr, mais on l'a déjà exprimé à plusieurs reprises, et on continuera de le faire.
Puisque vous avez ouvert le sujet sur la taxe d'habitation, si j'ai bien compris vos propos, vous êtes contre la suppression de la taxe d'habitation. Soi-disant, ça a permis de faire élire le président, mais vous êtes contre.
parce que ceux qui sont chargés de mettre en œuvre cette disposition du président de la République, cet engagement, il s'appelle M. Darmanin, M. Bruno Le Maire, M. Édouard Philippe, ces trois personnes de votre famille politique. Donc, alors, vous les avez peut-être exclus depuis, je ne sais pas, je ne suis pas exactement tout ce qui se passe, mais en attendant, ils ne sont pas connotés gauchistes, hein, voilà. Et ils ne sont pas connotés, ces trois élus du territoire de la République, c'est des élus municipaux, départementaux, régionaux, c'est des élus, c'est pas des élus, que des élus nationaux. Voilà. Deuxièmement, le fait que la taxe d'habitation soit supprimée pour les gens, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça remet du pouvoir d'achat pour ceux qui la payent. En tout état de cause, ça remet du pouvoir d'achat. Alors après, oui, elle va être compensée par l'État. Et alors, où est la problématique? Vous avez déjà énormément d'éléments qui sont compensés par l'État. Vous allez avoir à l'euro près le montant de la ressource qui vous est versée. Donc, systématiquement, pleurer sur l'État en disant « l'État ne me donne pas assez, l'État ne fait pas assez ci, l'État ne fait pas assez ça », quand vous avez votre casquette de maire. Et ensuite, quand vous avez votre casquette de politique, de dire « oui, mais on n'a pas suffisamment de ressources, il faut nous donner plus d'argent, etc. » L'argent, il vient d'où, si ce n'est pas de l'État? Donc, il y a un discours paradoxal que vous menez qui n'est pas très juste. Je le rappelle, la décision de baisser, de supprimer la taxe d'habitation, c'est une très bonne chose.
Vous ne m'avez pas écouté avec suffisamment d'attention. J'ai commencé par dire que la suppression de la taxe d'habitation, forcément, c'est une bonne nouvelle pour les contribuables qui la payent. Mais au même titre que ceux qui payaient l'impôt sur le revenu, si on leur disait demain qu'il n'y avait plus d'impôt sur le revenu, ils seraient contents aussi. Enfin, à partir du moment où on supprime une taxe, on ne peut faire que des heureux. Donc ça, c'est le principe de base. Ensuite, donc ça, c'est, je n'ai pas dit autre chose. J'ai simplement que à la réponse de M. Meurier, qui pour le coup avait un discours structuré, hein, M. Meurier, et on est bien en face, sur la suppression de la taxe d'habitation, c'était son sujet, la difficulté des communes. Une des difficultés des communes, ce n'est pas la seule, c'est la possibilité pour les communes de s'administrer librement. Donc, nous, on ne demande pas d'argent à l'État, il y a des dotations qui ont été à un moment décidées par l'État dans le cadre de la décentralisation. On est revenu, ça date pas d'hier, ça fait quelques années, on est revenu sur les dotations, en baissant les dotations depuis un petit moment. Je pourrais vous redonner les chiffres précisément, on doit être à près de 1,7 million en moins par an. Mais je vous donne les chiffres exacts, ça vous intéresse. À ça vient s'ajouter une épée de Damoclès, je ne sais pas comment ça se passait, mais l'État devra compenser, en tout cas c'est ce qu'il a annoncé, que l'État devra compenser la suppression de la taxe d'habitation. Ce qui est normal, parce que les communes ne peuvent pas se travailler, ne peuvent pas fonctionner sans le revenu de la taxe d'habitation. Donc il y aura nécessité pour l'État, à un moment, c'est ce qu'il a annoncé, de compenser cette taxe d'habitation d'une façon ou d'une autre. Donc soit il prendra sur son budget, et s'il prend sur son budget pour ça, il retirera des milliards à d'autres ministères, et sinon, il sera obligé d'augmenter les taxes. C'est tout ce que je dis, je ne dis pas autre chose. C'est à lui de gérer ça, c'est lui qui a fait une promesse, c'est lui qui devrait la tenir, et c'est à lui de gérer ça. C'est un constat, personne ne pleure, personne ne gémit, c'est juste un constat qui est partagé par la vaste majorité des élus, sauf vous apparemment. Bon, il n'y a pas de vote en fait, parce que simplement prendre acte du rapport. Donc je vous propose de passer à la délibération numéro 3. Pascal Campas. Ça concerne la mise en œuvre du RIF 7.
Alors chers collègues, bonjour à tous. Je ne vais pas vous parcourir l'ensemble de cette note de synthèse numéro 3, car je sais qu'elle a déjà fait l'objet d'une lecture attentive de votre part. Toutefois, j'ai réalisé une note de synthèse facilitant la compréhension pour chacun de ce qu'est le régime indemnitaire appelé RIFSEP et surtout quel en sera l'intérêt direct pour nos agents territoriaux. Le RIFSEP, je rappelle que c'est le régime indemnitaire des fonctions et suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel, est né d'un transfert progressif au fil des décrets du modèle de régime indemnitaire de la fonction publique d'État sur la territoriale. Il est composé d'une part fixe, l'IFSE, indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, qui reprend la grande majorité des primes versées actuellement mensuellement aux fonctionnaires, l'IAT, l'IUM, etc., dans un souci de rationalisation et de simplification. Et également d'une part variable appelée CIA, complément indemnitaire annuel, facultatif. regard des excellents résultats de gestion de la commune et du comportement exemplaire de nos agents dans l'exercice de leur mission, nous avons souhaité effectuer une réaffectation partielle en ouvrant notamment le régime indemnitaire aux contractuels, jusque-là exclus du système. Nous voulons valoriser le travail de ce personnel aux revenus modestes. Cela correspond aujourd'hui à 29 agents sur la commune du Pradé. Le principe de ce régime indemnitaire est bien sûr de n'engendrer aucune baisse de rémunération. Nous réajusterons le régime des agents qui pourraient être en dessous des grilles RIFSEP. Nous souhaitons également voter le CIA comme la grande majorité des communes de TPM, sans toutefois, pour le moment, le mettre en œuvre. Je demande donc au Conseil de se prononcer sur les points suivants, à savoir décider de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, d'expertise de l'engagement professionnel, IFSE et CIA, décrit un peu avant, à compter du 1er janvier 2019 pour les cadres d'emploi susmentionnés et dans les conditions énoncées par l'exposé et conformément au tableau annexé à la présente délibération. Décider la mise en place d'un régime indemnitaire reposant sur les dispositifs existants, RICEP ou à défaut de possibilité d'application IATIEM, IFTS, IHTS pour les agents contractuels. Décider le maintien des régimes indemnitaires existants pour les agents n'entrant pas dans le champ d'application du RIFSEP, autoriser M. le maire à fixer par un arrêté individuel le montant attribué à chaque agent au titre de ce régime indemnitaire dans le respect des principes définis par l'exposé, dire que les groupes de fonctions ainsi que les montants IFSE et CIA déterminés par cadre d'emploi et par grade, tels que figurant en annexe, seront systématiquement et automatiquement ajustés en cas de revalorisation des arrêtés ministériels de référence, dire que les crédits nécessaires à ces dépenses seront inscrits au budget de la commune.
Monsieur Fior.
Juste deux observations. Pour faire simple, l'IFSE, ça permet de regrouper l'intégralité des primes en une seule. C'est obligatoire. Il n'y a pas de gain pour l'agent. Donc, dans acte. Le CIA, c'est la rémunération au mérite. Contrairement à ce que vous avez dit, c'est obligatoire. Ce n'est pas par décision métropolitaine ou pas métropole, c'est obligatoire. Il faut le voter. Et par contre, il y a un élément qui m'a interpellé, c'est que vous le faites voter et vous me dites que vous n'allez pas l'appliquer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre manière de voir les choses par rapport à ça?
Alors, effectivement, l'IFSE, bien sûr, regroupe l'ensemble. On les a cités. Le CIA sera voté aujourd'hui. Pour la simple raison, le CIA, aujourd'hui, on a un vrai déficit pour déterminer, je dirais, la capacité à avoir le mérite particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, telles que les grilles, par exemple, de notation annuelle sont faites, ce qui n'est pas forcément vrai dans la fonction publique d'État, aujourd'hui, on a des grandes difficultés à toucher du doigt le mérite individuel. Ce qui fait que c'est très compliqué à mettre en œuvre. D'autre part, je rappelle qu'on est en enveloppe constante. Donc aujourd'hui, les efforts qu'on fait sur les agents, les 29 agents contractuels, c'est un premier effort. C'est un premier effort. C'est vrai que dans les années à venir, et parce que ce sera voté, on pourra sans doute faire évoluer les choses et mettre en place le CIA.
Merci. Madame Dely.
Alors, ce que vous dites au personnel, c'est qu'en fait, ils auront leur attribution, leur régime indemnitaire obligatoire, mais rien de plus en fonction du mérite. Dans les années à venir, puisqu'on ne sait pas trop quand est-ce que vous comptez le mettre en œuvre. C'est-à-dire que tout le monde aura zéro au titre du CIA. Pourtant, il y a... C'est ce que vous nous dites, hein. D'accord. Non, eux, ils auront leur indemnitaire.
L'agent contractuel, plus effectivement les agents qui auront pris des responsabilités au sein de la commune et qui, eux aussi, se verront l'indemnitaire façon.
Oui, mais par fonction. Pas au mérite, pas en fonction d'objectifs qui se leur seraient fixés, comme le prévoit.
Par fonction, effectivement, le mérite, ce sera des attentes ultimes.
Eh bien, écoutez, on en prend acte.
Merci, donc on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 4, Pascal Compens. Ainsi que les questions 5 et 6. Par contre, 4 et 5.
Alors, la note synthèse numéro 4, modification du tableau des effectifs. L'article 3 du décret numéro 2016-1798 du 20 décembre 2016 a élargi les postes auxquels les directeurs territoriaux et attachés hors classe peuvent désormais accéder. Ainsi, une commune de la strate démographique du Pradé peut dorénavant recruter un agent sur ce grade. Afin de répondre aux besoins pérennes de la collectivité et de sortir de la situation de détachement dans laquelle se trouve l'agent actuellement sur ce grade, il est proposé au conseil municipal de créer un poste de directeur territorial au 1er janvier 2019 et de valider le nouveau tableau des effectifs annexé. Pour information, le comité technique réuni le 19 octobre 2018 a émis un avis favorable à l'unanimité.
Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Monsieur Fior, une question, allez-y.
Effectivement, j'ai une question et puis après j'ai des observations. La question c'est, est-ce qu'on peut savoir pour qui cet emploi est créé?
La réponse vient d'être donnée par le maire, c'est-à-dire pas de réponse.
Vous me l'écrivez. Alors, ce que je vous propose, monsieur le maire, comme je suis élu, comme nous sommes tous élus, vous m'écrivez le nom sur un bout de papier. Comme ça, j'ai l'information et je peux continuer mon intervention. Mais vous n'avez pas de secret vis-à-vis de vos élus. Ça montre bien votre manière de faire, quand même. Franchement, vous êtes impressionnant sur ce sujet-là. Transparence, on est en débat du conseil municipal, vous créez un poste, vous visez une personne qui est détachée. Parler d'un emploi public avec de l'argent public dans une collectivité publique, vous refusez de donner le nom, je veux bien l'entendre qu'on ne cite pas le nom dans le conseil municipal, vous refusez de donner le nom à un de vos élus. Bon, très bien.
La loi, monsieur. Mais je respecte la loi. Est-ce que vous semblez bizarre de respecter la loi?
Allez,
en ce qui me concerne, je respecte la loi, je n'ai pas le droit de faire, je ne le ferai pas.
Vous allez respecter la loi, c'est un beau principe. Allez. On va vous donner un cours de droit et comme ça, vous allez respecter la loi. Vous allez ouvrir devant nous, vous allez suspendre la séance et vous allez ouvrir devant nous Internet. Vous allez aller sur le site des collectivités locales. Vous allez regarder un peu la législation et vous allez vous apercevoir que le poste que vous voulez créer, l'emploi que vous voulez créer, un emploi de directeur territorial, n'existe plus. Que plus personne ne peut être nommé sur ce poste-là depuis le 1er janvier 2017, qu'il est en voie d'extinction. Donc, vous prenez 2 secondes, vous regardez ça. Si vous voulez, je vous mets les textes et on verra si c'est possible. Vous voulez une petite suspension de séance, simplement?
Merci, je n'ai pas besoin. Je suis sûr de moi, la délibération est tout à fait légale. Allez au théâtre comme vous avez l'habitude de le faire.
Arrêtez de vouloir qu'on aille au théâtre, je ne cherche pas à vous embêter.
Plus. Non, monsieur Fior, vous me posez la question, je vous réponds non. Voilà. Donc, je ne suis pas d'accord avec votre analyse. On a le droit de ne pas être d'accord, vous n'avez pas besoin de vous énerver. On n'est juste pas d'accord sur l'analyse de situation. Moi, je vous dis qu'on est tout à fait dans notre droit. On ne parle pas de créer un poste, mais c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de la commune déjà, qui va avoir accès au grade, c'est tout. C'est pas autre chose. On ne partage pas l'analyse, on ne va pas se fâcher pour ça.
Monsieur le maire, vous ne parlez pas de créer un poste, je prends votre délibération. Afin de répondre aux besoins pérennes de la collectivité et de sortir de la situation de détachement dans laquelle se trouve l'agent inconnu actuellement sur ce grade, il est proposé au conseil municipal de créer un poste de directeur territorial. Vous ne créez pas de poste? Ce n'est pas l'objet de votre délibération? Est-ce que ce n'est pas l'objet de votre délibération?
Je vous dis simplement, ma délibération, elle est bonne, on va la voter. Vous voter contre, vous abstenir, vous votez pour.
Elle est sûrement bonne. Bon, est-ce que vous créez un poste de directeur territorial?
On ne va pas vous lire la délibération, vous avez pris connaissance.
Mais vous me dites que non. Alors, comme vous dites le contraire de ce que vous délibérez, j'aimerais bien savoir. Est-ce que vous créez un poste de directeur territorial, oui, non?
On confirme quelqu'un qui est déjà dans le tableau des effectifs. Madame Dely.
Vous créez un poste au tableau des effectifs. Et or, je vous explique, l'article 2, alinéa 2, du décret de 2016 dont vous parlez, prévoit que le cadre d'emploi des attachés territoriaux est composé de trois emplois, attaché territorial, attaché principal et attaché hors classe. Le poste alinéa 3, le poste de directeur territorial est maintenu pour ceux qui sont déjà en poste. on ne peut pas créer depuis le 1er janvier 2017 de poste de directeur territorial. Je suis désolée pour Madame Patifou, mais c'est absolument la réalité. Non, mais c'est faux. C'est la réalité. Ce sont les textes. Donc vous faites voter une délibération avec un poste qui ne peut pas être voté. C'est illégal. Donc comme vous voulez, mais c'est absolument illégal.
Quand je pense que vous avez passé une minute à essayer de prendre un nom que vous avez déjà, franchement, perdu le temps au conseil municipal, vous êtes des spécialistes. Bon, on va passer au vote. Ben, c'est illégal. Écoutez, c'est votre. Non, on n'en a pas besoin. De notre point de vue, c'est tout à fait légal. Libre à vous de penser. On n'a pas la même analyse. Vous vous énervez pour rien, Madame Delis. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Oh là là. Allez, on va passer au vote. Calmez-vous, Madame Delis, calmez-vous. Allez, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, contre. On va refaire le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On va refaire ce qu'on a. Non, il y a M. Durand qui s'abstient ou qui vote contre? Ah, il y a une abstention, M. Durand, en fait. Deux abstentions, celle de M. Mûrier et de M. Durand, c'est bien ça? Voilà. Contre le reste et pour, je vous remercie. Délibération suivante, c'est la délibération numéro 6, donc, Josiane. 5, pardon. Allez, Pascal Campos.
Alors, projet de délibération numéro 5, recensement de la population 2019, création d'emplois d'agents recenseurs et fixation de rémunération. Considérant qu'il est nécessaire de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser des opérations de recensement de la population dont l'enquête se déroulera du 17 janvier au 23 février 2019, que la rémunération des agents recenseurs sera couverte en partie par la dotation d'INSEE qui s'élève à 2 124 € pour l'année 2019, qu'il appartient également à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs, il est proposé au conseil municipal la création de 4 emplois d'agents recenseurs qui effectueront la collecte des informations pour la période allant du 17 janvier au 23 février 2019. Il est proposé de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit. Les agents recenseurs recevront une rémunération forfaitaire d'un montant de 800 € par agent, étant précisé que ce tarif ne comprend pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le tarif de rémunération des agents recenseurs et de les mettre en vigueur aux dates d'effet prévues, d'autoriser M. le maire à nommer par arrêté les agents recenseurs aux conditions susvisées, ainsi aussi que les crédits nécessaires à la rémunération des agents et charges sociales seront inscrits au budget primitif de l'exercice 2019. Ce projet de délibération entendu, la direction est mise au voie.
Si, M. Mûrier.
Le recensement de la population est parfois vécu comme quelque chose d'intrusif. Comment cela va-t-il se passer? Quelle nouvelle information l'INSEE, donc l'État, a-t-il besoin de connaître des contribuables déjà fichés, numérisés, assujettis et bientôt ponctionnés à la source? Autre question. Les agents recenseurs qui collecteront des informations durant la période du 17 janvier au 23 février 2019 recevront une rémunération forfaitaire de 800 € par agent, mais quelle sera leur rémunération finale? Merci.
Alors, la rémunération, hein. Déjà pour la petite histoire, 800 €, on est passé de 600 à 800. Donc une augmentation substantielle, donc la réponse c'est 800 € par agent qui seront en priorité, on va privilégier hein, les agents territoriaux pour ceux qui pourront se rendre disponibles, et ensuite sinon on utilisera des agents d'extérieur. En ce qui concerne la grille des éléments recensés, je n'ai pas là, mais je pourrais vous la fournir sur les éléments qui sont demandés à la population.
Pour combien d'heures de travail? 800 €, c'est pas parlant.
Non, c'est un forfait.
Alors, donc, si j'ai bien compris, on crée 4 emplois supplémentaires liés au recensement.
Comme à chaque fois, on a rien innové sur cette délibération.
On est d'accord. Mais ce que je veux vous faire remarquer par là, c'est que vous nous avez donné un tableau des emplois, un tableau des effectifs,
oui,
sur la délibération précédente. tableau des effectifs à compter du 11 décembre 2018. Voilà, simplement, normalement, si vous créez des emplois, ils auraient dû apparaître dans ce tableau-là. Voilà, ça c'est un élément, mais je ne veux pas vous embêter là-dessus. Je dis simplement que si vous créez des emplois...
Du fait de la ponctualité de la mission, c'est vrai que les mettre sur un tableau des effectifs, ça me paraît un peu...
Ben, à partir du moment où vous mettez que c'est le tableau des effectifs qui s'applique à la commune à partir du 11 décembre, paraît très logique qu'ils apparaissent si on les crée la délibération suivante. Mais je ne veux pas vous embêter plus là-dessus. Je veux simplement revenir sur l'illégalité ou la légalité des créations d'emplois. Ce que je vois dans ce tableau des effectifs, c'est qu'on a 260 emplois. Et sur ces 260 emplois, on a 177 qui sont pourvus. Je voudrais attirer l'attention du conseil municipal et du maire sur le fait que la commune et monsieur le maire a été condamné par le tribunal à payer à un de nos agents 1 500 € du fait que vous avez cherché à le licencier de manière irrégulière puisque la justice l'a reconnu comme tel et a condamné la commune à lui verser 1 500 € et que cette personne, dont je tirerai le nom puisque vous ne voulez pas qu'on l'évoque, et que cette personne qui a servi la commune pendant plus d'une dizaine d'années ne mérite pas le traitement qu'on est en train de lui faire subir. Si vous ne recréez pas l'emploi que vous avez supprimé volontairement pour le mettre dehors, cette personne sera reversée au centre de gestion. Le centre de gestion va prendre en charge sa rémunération, c'est la commune qui va payer pendant 2 ans, et il ne travaillera pas ni pour la commune, ce n'est pas une bonne manière de gérer le personnel. Donc je voudrais encore une fois appeler votre attention sur le fait que maintenant que vous avez été condamné par un tribunal, vous revoyez votre position puisque vous êtes adepte de la légalité et que vous le réintégriez dans les meilleures conditions possibles. Merci par avance.
Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, pas d'autres questions? On va passer au vote donc. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention qui est pour? Le groupe pour? Vous avez voté pour ou vous n'avez pas levé la main? Vous votez pour, je vous remercie. Question numéro 6, Josiane Sicardi. Merci, bonjour. Donc nous allons voter le projet de la note concernant l'avenant numéro 4 à la convention entre la mairie et le centre communal d'action sociale. Donc vous savez que nous avons entre la mairie et le CCAS une convention. Cette convention a pour objectif donc de développer les pratiques communes et surtout d'établir une meilleure homogénéité de fonctionnement de notre organisation. Et face aux contraintes économiques et aux enjeux de la modernisation des services publics et surtout dans un souci d'efficience, la ville et le CCAS se sont accordés sur la nécessité de revoir cette convention et à cette occasion de repréciser le fonctionnement de certains services déjà mutualisés. Dans l'attente donc d'une rédaction définitive, c'est déjà d'ores et déjà les services des RH de la commune et du CCAS qui sont engagés, qui ont engagé une démarche de rapprochement de ces personnels au travers d'une nouvelle répartition des tâches et de la conduite à démission. Donc l'avenant que vous avez qui est joint à la note donne donc la possibilité de la mise en œuvre du plan de formation des agents donc par un agent du CCAS moyennant un règlement financier par la commune. De ce fait, il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 4 que vous avez joint à ce projet et également à facturer l'intervention de cet agent sur la base du coût horaire et chargé, donc, c'est-à-dire 22,14 €, que multiplie le nombre d'heures par une limite de 600 heures pour la première année et à prendre tout acte subséquent nécessaire à la mise en œuvre de ce même avenant.
Merci Josiane. Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 7. Jean-François Plane, ça concerne le règlement intérieur de la police municipale.
ceux que je n'ai pas encore vus. Compte tenu de la spécificité des règles qui régissent les conditions d'exercice de la police municipale, il apparaît nécessaire d'adopter un règlement intérieur qui permet de poser clairement l'organisation du service et la mise en œuvre de ses missions. Le règlement intérieur s'y annexé a été présenté à l'ensemble des agents de la police municipale et a été approuvé à l'unanimité lors du CT du 29 novembre 2018. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer à son adoption.
Pas de questions, monsieur Marier.
Je vais voter pour l'adoption de ce règlement intérieur de la police municipale. Et puisque nous abordons la question de la sécurité, pouvez-vous nous parler de la vidéoprotection? Où en est-on? Quel premier renseignement en tirer? Enfin, si un pratétant désire connaître les chiffres de la délinquance dans sa ville, comment peut-il se les procurer? Merci.
Bien, monsieur Meurier, vous êtes élu. Imaginez-vous bien, vous avez eu ma réponse, tout au moins la réponse du service concernant les requêtes que vous nous avez fait parvenir. Imaginez bien que si vous n'avez pas pu accéder à certaines requêtes, le prédateur lambda ne pourra pas non plus y accéder. C'est une question de sécurité. En plus, moi, de par ma mentalité, je n'aime pas trop non plus à ce qu'on inquiète la population pour des raisons diverses et variées. Pas lesquelles, mais qui, on va dire, diverses et variées. En ce qui concerne la vidéoprotection, qui est là, effectivement, elle, par contre, pour rassurer et éventuellement pour permettre de résoudre certains délits, on a terminé la première phase. Donc, nous avons 26 caméras qui sont actives sur la commune.
Personnellement, je serais très intéressé de participer à une réunion sur justement les vidéosurveillances.
Et me voir, et je ne peux pas vous faire participer aux réunions techniques avec la société, mais vous venez quand vous voulez, et puis il n'y a pas de problème.
Il faut bien se faire une réunion.
Il n'y a aucun souci.
Mon mail est connu,
vous
pouvez m'inviter.
Il n'y a pas de problème.
Monsieur Durand.
Merci. Les chiffres de la délinquance ne peuvent pas être donnés. Arrêtez-moi si je me trompe, il existe bien un CISPD, un Conseil intercommunal de sécurité de la délinquance. Le directeur technique, c'est monsieur Max Trumeau à la métropole. Et pour y siéger dans le cadre de mon travail, ces données sont publiques. Je ne parle pas de phénomènes de terrorisme, de choses comme ça, où effectivement, là, c'est le pouvoir de police du maire et. Il y a une absolue discrétion à avoir là-dessus, ça j'en conviens parfaitement. En revanche, les faits de délinquance, ils sont publics. Ou je me trompe, ça a peut-être évolué, mais.
Pas du tout, vous ne trompez pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. La problématique, c'est un choix de ma part. Vous avez très bien compris, j'espère avoir bien expliqué la chose au départ. Ensuite, il est évident que les contacts que je fais en ce moment avec les services de l'État, que ce soit la police nationale ou la préfecture, vont dans le
sens où il n'est pas judicieux de transmettre certaines indications en ce moment. Voilà, c'est tout.
Monsieur Meurier.
Oui, c'est juste pour rebondir sur ce que disait M. Durand. Moi, j'ai contacté la métropole, ils n'ont pas voulu me communiquer ces chiffres, donc la mairie non plus, et puis la préfecture non plus, et le ministère de l'Intérieur se contentait d'un gros rapport que j'ai pu consulter, mais il n'y avait pas de déclinaison locale sur les chiffres de la délinquance.
Merci. Monsieur Fior.
Oui, merci. On va voter pour ce règlement intérieur. Hein. C'est pas, y a pas de sujet particulier. Il y a une interrogation de notre part sur l'équipement mis à disposition des personnels de la police municipale. Article 55, on voit caméras piétons. On fait partie des 391 communes qui testent la caméra piéton. Juste bien.
La réponse est non au départ.
Donc on fait pas partie des 391 communes qui ont eu l'autorisation d'utiliser les caméras piétons, autorisation qui s'est arrêtée au mois de juillet, juin, et qui a repris au mois de juillet. Parce que, voilà, merci pour votre franchise, monsieur Plan. Je vous suivrai sur ce point, comme d'habitude.
Merci. Pas d'autres interventions, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour unanimité, je vous remercie. Question numéro 8, 9, 10, 11, 12. Monsieur Denis Chambly, ça concerne les marchés publics. Et on commence avec la 8, c'est l'autorisation de transfert des marchés publics pour les compétences transférées à la métropole.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, autorisation de transfert des marchés publics correspondant aux compétences transférées à la métropole TPM. Les compétences gérées jusqu'ici par la commune du Pradé le sont désormais par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. À titre transitoire et pour permettre la mise en place administrative et technique de la nouvelle organisation de la métropole, une convention de gestion transitoire a été conclue jusqu'au 31 décembre 2018. À compter du 1er janvier 2019, MTPM devra prendre la gestion pleine et entière des prérogatives administratives et des compétences transférées. Parmi ces compétences, on peut citer la gestion des plages, la valorisation des espaces naturels, l'urbanisme et la voirie, qui requièrent l'usage de marchés publics de travaux, de maîtrise d'œuvre, de services ou de fourniture, qui n'ont plus vocation à être pleinement gérés par la ville du Pradé. À ce titre, les marchés publics conclus par la ville du Pradé doivent être transférés intégralement lorsqu'ils sont mis en œuvre sur des espaces publics ou des équipements gérés par la métropole. Un avenant de transfert doit être ainsi conclu pour chacun des marchés concernés. Cependant, dans le cas de marchés publics pouvant également s'exercer sur des espaces publics ne faisant pas l'objet du transfert, comme par exemple les parcs et jardins, les cours d'école ou les cimetières, une scission du marché doit se réaliser, permettant à chaque maître d'ouvrage de pouvoir poursuivre les prestations de ces marchés selon ses besoins. À compter du 1er janvier 2019, la gestion des marchés et le paiement des prestations correspondant au marché qui sont joints dans le premier tableau, seront effectués par la métropole TPM, en lieu et place de la ville du Pradé. Ce changement concerne l'ensemble des marchés listés dans le premier tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure. À compter du 1er janvier 2019, la gestion des marchés et le paiement des prestations correspondant aux marchés suivants seront effectués, suivant ceux qui sont dans le deuxième tableau, ils seront effectués en partie par la métropole pour la prestation relevant de son domaine de gestion et pour partie par la ville du Pradé. Pour les prestations relevant de son domaine de gestion, ce changement s'opérera par voie d'avenant de transfert partiel entre les titulaires des marchés, la ville du Pradé et la métropole TPM. Dans le tableau, vous allez retrouver la répartition entre ce qui est transféré à MTPM et ce qui est gardé par la mairie du Pradé. Il est donc proposé au Conseil d'adopter l'exposé qui procède, d'approuver la passation des avenants de transfert et de scission précités, d'autoriser le maire, M. le maire Hervé Stassinos, en qualité de pouvoir adjudicateur de la ville du Pradé, à signer les avenants correspondants et tout acte ou tout document s'y rapportant.
Merci. On va passer au vote. Qui est contre? Un contre, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, j'imagine. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 9.
Autorisation de passation d'un avenant à la convention de dématérialisation avec la préfecture du Var. Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'État s'est engagé dans un projet dénommé ACTE qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. Sur délibération du Conseil municipal du 31 octobre 2007, la ville du Pradé a donc signé une convention avec la préfecture du Var pour permettre la télétransmission de ces actes. Par la suite, la procédure a été appliquée aux documents budgétaires via acte budgétaire au travers d'un avenant numéro 1, le 15 mai 2013. La ville souhaite aujourd'hui étendre ses télétransmissions aux actes réglementaires de la commande publique. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter l'exposé qui précède et puis d'autoriser donc M. le maire, Hervé Stassinos, en qualité de pouvoir adjudicateur de la ville du Pradé, a signé l'avenant numéro 2 portant extension du périmètre de télétransmission aux actes de la commande publique ou tout document tendant à rendre effective cette décision.
Merci. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 10.
Autorisation d'adhésion de la ville du Pradé au groupement de commandes composé de la commune du Pradé, du centre communal d'action sociale, du foyer logement, du port des Oussinières et de la régie des transports en vue de la conclusion d'un marché de fourniture de carburant. Le pouvoir adjudicateur a décidé par la présente convention de constituer un groupement de commandes concernant la fourniture de carburant par carte accréditive pour le parc automobile et engin de la ville du Pradé. Le groupement de commandes permettra d'optimiser les coûts de fourniture de carburant, de mutualiser la gestion administrative, de permettre à chaque entité signataire de la convention de s'approvisionner en carburant. La fourniture comprend la prise de carburant à la pompe, la mise à disposition des cartes accréditives, un système de gestion en ligne. Le marché sera passé sous la forme de marché à bon de commande, conclu pour une durée de 12 mois renouvelable une fois par express reconduction. Après, vous allez retrouver les masses financières pour chaque entité. Il y a toutes les explications concernant la fournition. Je vais vous en faire. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter l'exposé qui procède.
Merci. Monsieur Fior.
Merci. On va voter pour. Il n'y a aucun sujet de notre part. Comme j'ai cru entendre Régie du port des Oursinières, je voudrais simplement rappeler à Mme Rialan qu'elle avait pris l'engagement de nous donner quelques informations sur cette régie et qui ne me semble pas, en tant que conseiller municipal, n'avoir eu aucune information sur cette régie depuis 2014. Donc, je voudrais juste rappeler ça. Merci.
Pourquoi moi, précisément?
Parce que lors d'un précédent conseil municipal, vous avez dit que si vous étiez autorisé par le maire à nous donner des informations, parce que j'ai cru comprendre que vous siégez à la régie du port des Oursinières. Mais moi, je n'attends pas forcément des informations de votre part. Mais je voulais simplement avoir des informations sur la régie du port des Oursinières, puisque c'est quand même une régie qui appartient à la ville, et on n'a pas de membres de l'opposition dans cette régie. Et faire 6 ans au sein d'un conseil municipal sans avoir aucune information sur cette régie me semble quelque chose d'anormal. Donc si quelqu'un qui a des informations, je ne cible pas Mme Rialan, au sein de cette régie qui siège, veut bien nous donner quelques informations un jour ou l'autre d'ici la fin de votre mandat sur cette régie, cela nous serait agréable. Merci.
Comme c'est une question quand même assez vaste, je vous propose de m'envoyer des questions précises.
Merci. Donc on va revenir à délibération et donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 11.
Approbation du règlement intérieur des commissions relatives à la commande publique. La réforme de la commande publique est venue redéfinir les modalités de passation des différents contrats publics, et notamment les marchés publics et délégations de services publics. Le Code général des collectivités territoriales fait uniquement référence aux règles de composition d'une commission. En revanche, aucun texte ne prévoit son fonctionnement. L'article L1411-5 du CGCT traite des modalités de désignation qui, en l'occurrence, sont identiques pour les commissions d'appel d'offres supérieures au seuil européen et les commissions des concessions. Aussi, il appartient à chaque collectivité territoriale de déterminer les règles régissant l'organisation et le fonctionnement de ces commissions. L'élaboration de règlements intérieurs apparaît donc nécessaire pour compléter la réglementation relative à la commande publique. Il permet auxdites commissions d'intervenir dans un contexte juridique précis et d'assurer la sécurité juridique des contrats publics. Le règlement intérieur proposé au Conseil municipal a notamment pour objectif d'établir les modalités de convocation, quorum et vote des différentes commissions, de compiler dans un document unique l'ensemble des commissions concernées et leurs modalités de fonctionnement. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le règlement intérieur des commissions relatives à la commande publique.
Merci. On va passer au vote, donc. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 12.
Avis annuel des marchés publics conclu en 2018. L'article 133 de l'ancien Code des marchés publics prévoyait au cours du premier trimestre de chaque année la publication de la liste des marchés conclus l'année précédente par le pouvoir adjudicateur. La réforme de la commande publique au travers de l'ordonnance du 25 juillet 2015 supprime cette obligation et met en place une nouvelle réglementation basée sur l'accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics sur le profil acheteur de la commune. Dans le souci de transparence, M. le maire souhaite conserver cette démarche et continuer de communiquer l'avis annuel des marchés à l'Assemblée délibérante détaillée, que vous allez retrouver détaillé dans le tableau annexé. Il est proposé au Conseil municipal de prendre connaissance de la liste des marchés publics lancée en 2018.
Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Merci, Denis. Question numéro 13, Valérie Rialan. Ça concerne la DSP. Des bonnettes, de la Garonne, pardon.
Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. En 2015, la ville du Pradet a confié par voie de délégation de service public l'exploitation d'une activité de glacier confiseur sur l'esplanade de la Garonne. Le délégataire produit chaque année un rapport comportant des éléments financiers et une analyse de la qualité du service. Le rapport a été présenté à la commission DSP et aucune observation n'a été formulée. Donc je vous demande d'approuver ce bilan de DSP de la Garonne. Mesdames et Messieurs, je vous demande de vouloir en délibérer.
Merci. Monsieur Fior.
Merci. S'agissant de la saison 2017, il aurait été plus judicieux qu'on l'ait avant la saison 2018. Ces rapports d'activité doivent être présentés avant le 30 juin normalement. Parce qu'on est quand même fin 2018 et vous nous parlez de la saison estivale 2017 sur la délégation du glacier 2017. Voilà, c'est tout.
Merci. Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 14, Jean-Claude Véga. Ça concerne les comptes administratifs du syndicat de l'Égoutier.
Pas ce que j'ai dit. L'exécution de l'exercice 2017 a respecté les directives du DOB 2017, à savoir le maintien des participations des communes membres. Pour rappel, Pradet à hauteur de 36 817,77 abonde. Voilà, je cherche le mot. Poursuite de notre programme d'entretien en focardage et ancrage, engagement d'études dans le cadre de l'élaboration du PAPI, réalisation de travaux au pont de la Clue et le confortement des berges, et développement de la recherche de subventions. Cette année, les dépenses de fonctionnement ont légèrement augmenté par rapport à 2016 de 6,63%, du fait notamment de la prise en charge en 2017 des frais d'entretien des biens mis à disposition au syndicat par la commune de Toulon. Ces biens sont les biens situés à Saint-Eustache, dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI. Voilà. En 2017, nous autofinançons notre section d'investissement à près de hauteur que 99%, comme en 2016. Le besoin d'emprunt reste inexistant. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'adoption du compte 2017 du syndicat de gestion de l'égoutté annexé à la présente délibération.
Merci. Monsieur Fior.
Ce sera exactement la même remarque que pour la délibération précédente. Vous avez eu ce document le 6 avril 2018. Il a été transmis à monsieur le maire le 6 avril 2018. Il faut attendre fin décembre 2018 pour en avoir connaissance. C'est comme les comptes rendus audio, c'est comme c'est l'information, c'est le fil d'actualité au Pradé, il y a 3 mois, 6 mois. Très bien. Cela vous honore.
Parfait. Alors, il n'y a pas de vote, hein. C'est juste prendre acte du rapport. Voilà, donc c'est fait. Je vous propose de passer à la délibération numéro 15. Jean-Michel Perratou.
Bonjour à tous. Dans le cas autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'exercice 2019. Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement des recettes d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans les limites de celles inscrites au budget de l'année précédente. En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécution de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il est proposé au conseil municipal de permettre à monsieur le maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25%, soit 908 447,75 euros, avant l'adoption du budget principal qui devra intervenir avant le 15 avril 2019.
On va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 16, Jean-Michel Perratou à nouveau.
Garantie d'emprunt de la SAHLM Erilia, opération Les Hautes Terres, rue d'Entrua, allongement de la dette. Erilia, si après l'emprunteur, a sollicité la Caisse des dépôts et consignations qui a accepté le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexe à la présente délibération, initialement garantie par la commune du Pradès, si après garant. En conséquence, le garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le remboursement des dites lignes de prêts réaménagées. Il est proposé au conseil municipal d'adopter les articles de réaménagement des prêts.
Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Question suivante.
17. Reprise des résultats du budget annexe de l'eau constaté lors du compte administratif 2017 et transfert partiel des résultats de clôture à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. La présente délibération annule et remplace la délibération du 24-9-2018.
Merci.
Tout est identique à la précédente délibération, sauf à la demande de la préfecture. Et afin d'éviter un report négatif et positif, le tableau de la présente délibération est repris avec un compte R001 non alimenté. Il est proposé au Conseil d'approuver cette modification demandée par la préfecture.
Oui, monsieur Fior.
J'avais une petite question. Dans votre délibération, vous indiquez, je lis, de dire que les crédits nécessaires à la réalisation du transfert du solde positif de la section d'investissement seront inscrits à la décision modificative du budget principal sur le compte 1068 en dépenses.
Ce qui veut dire que c'était déjà inscrit sous la précédente.
D'accord. Ce qui ne veut donc pas dire qu'il y aura une nouvelle DM.
Absolument pas.
D'accord.
En accord avec le trésorier, M. Dubois.
Je vous remercie. On va passer au vote. Qui est contre? Une voix contre?
Non, je réfléchissais à la réponse.
Ah. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, la question de la délibération numéro 18, ça concerne l'extension du périmètre d'intervention du Conservatoire du Littoral sur le site de la Colnoire. En fait, le conservatoire, quelqu'un a légué au conservatoire un terrain sur le Pradet qui représente 7 hectares. Pour que le conservatoire puisse l'accepter, il faut qu'on puisse changer le périmètre d'intervention simplement du conservatoire. Donc, par cette délibération, on vous propose de permettre au conservatoire de devenir effectivement propriétaire de cette parcelle de un peu plus de 7 hectares qui est située à la Cibonne. Monsieur Fior.
Merci. Décidément, il me semble que ce conseil, c'est un conseil balai, parce que vous nous faites voter quelque chose alors que le conservatoire vous a écrit le 7 août, accessoirement il y a déjà eu un conseil sur le sujet, qui vous dit le 7 août, qui vous dit que conformément aux dispositions de l'article L, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir soumettre cette opération à votre conseil municipal, de me communiquer son avis. Faute d'une réponse de votre part dans les délais de 2 mois, l'avis sera considéré comme favorable. 7 août, 7 septembre, 7 octobre, 7 novembre, 7 décembre. Donc l'avis est réputé favorable depuis 2 mois et demi, 3 mois. Fait partie du fil d'actualité de la Smart City. On va voter pour vous faire plaisir, hein, monsieur le maire.
C'est pas génial, je crois que c'est
génial. Si j'ai bien compris, toutes les décisions un peu importantes, etc., on se revoit en décembre 2020, quoi.
Oui, et vous payez toujours qu'on vous informe pas. Même s'il y a un avis favorable qui est donné, on vous informe quand même au travers de ces délibérations. Qui est une bonne délibération, qui est une bonne délibération pour le Pradet, parce que ça permet de mettre en valeur un terrain de 7 hectares qui était en friche. Donc c'est partie de ces choses à laquelle la commune et les différents intervenants ne peuvent pas passer à côté de ce genre d'opportunité, qui est une excellente opportunité par la commune. Et je vous remercie de voter de façon favorable à cette délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie et merci pour le conservatoire et merci pour le Pradet. Question numéro 19. Ça concerne cette fois-ci une convention de partenariat avec le port national de Port-Cros pour installer des totems, en fait ce qu'on appelle des totems, pour signaler l'appartenance de la commune, l'adhésion de la commune au parc national de Port-Cros. Monsieur Fior.
Généralement, avec les panneaux, on a beaucoup de difficultés. Mais là, on va essayer de faire un effort. Sauf qu'il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé quand j'ai lu la convention, que vous nous demandez l'autorisation de signer. Je lis calendrier de l'opération. Les parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour garantir la réalisation de l'opération avant le 31 décembre 2018. Donc, esquisse APS, juillet 2018. APD, octobre 2018. Signature des conventions, décembre 2018. Réalisation et pose, décembre 2018. Ce qui suppose donc que tout est prêt. L'esquisse, l'APD, tout ça a été réalisé. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à nous demander l'autorisation de signer pour poser les panneaux. Donc ça fait partie des éléments de transparence habituels. Avec vous, je vous remercie.
Ce qui est bien avec vous, c'est que vous faites les questions et les réponses, c'est toujours plus facile. Simplement, comme vous l'avez noté, ça passait par une étape obligée, vous l'avez rappelé vous-même, de signer la convention en décembre 2018, ce qui sera fait, tout simplement. Vous voyez, donc on est tout à fait dans les temps. Qui est contre? Oui, monsieur Murier.
Implantation de modules de signalétique à la Garonne.
pour un montant de 8000 euros pris en charge par le parc national de Porquerolles. Pourquoi pas une photo pour nous montrer à quoi ressemble cette signalétique? N'y a-t-il pas un risque de pollution visuelle?
Effectivement, on a été extrêmement attentif à ce sujet. On a discuté avec nos amis du conservatoire. Parce qu'ils sont venus avec un premier projet, on leur a dit qu'effectivement, on voulait quelque chose de discret sur la Garonne. Donc on va partir sur quelque chose de discret, parce qu'une des peurs qu'on pouvait avoir au début, c'était effectivement de mettre un gros totem au milieu de la Garonne. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'endroit où on va décider de le placer, c'est un endroit qui est assez discret. Qui est contre? Comme d'habitude, toujours une bonne surprise avec nous. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. La question numéro 20, Jean-Claude Véga, ça concerne le PAPI.
Effectivement, ça concerne la convention cadre relative au programme d'action et de prévention des inondations, dit PAPI, du bassin de risque des petits côtiers toulonnais, qui est sur 3 ans, 2018 à 2021. Donc je passe un peu à vue la directive des inondations, la loi 2010, vu la circulaire, tout le monde a vu l'instruction du gouvernement, vu la délibération de la commission d'agglomération, vu les avis favorables du comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, et considérant que le programme d'action de prévention des inondations des petits côtiers toulonnais 2018-2021 pour un montant de 10 043 800 TTC est soumis à la signature d'une convention cadre pluriannuelle entre l'État, la métropole, Toulon-Provence-Méditerranée, les 17 communes concernées, le syndicat de gestion de l'égoutier, le syndicat mixte de la REP et du Grand Valla et les cofinanceurs identifiés, considérant aussi que la dite convention fixe les modalités de mise en œuvre du PAPI des petits côtiers toulonnais de 2018 à 2021, arrêtant notamment le programme d'action, le plan de financement et le calendrier prévisionnel de réalisation. Pourquoi un PAPI? Un PAPI, donc, c'est un programme d'action de prévention des inondations. Dans notre contexte géographique, où le relief entre la mer et la montagne a de nombreux fleuves côtiers, un littoral très urbanisé, des pentes très abruptes, il existe 3 risques majeurs. Le ruissellement, c'est l'écoulement des eaux en surface, le débordement des cours d'eau, la submersion marine. Le but du PAPI est de chercher, trouver et mettre en œuvre les solutions pour éviter ou limiter les risques d'inondation et d'assurer le maximum de sécurité liée aux crues pour nos concitoyens et le tissu économique. Il concerne 17 communes, 480 000 habitants sur 400 km². Ce PAPI est établi pour 3 ans. Son budget, je l'ai dit, est de 10 043 800 euros. Il est cofinancé par l'État sur les fonds Barnier à hauteur de 34%. L'Agence de l'eau, Rhône Méditerranée Corse, principalement pour les études à hauteur de 20%. La métropole, Toulon-Provence-Méditerranée, à hauteur de 21%, les syndicats, à hauteur de 22%, et dans une très moindre mesure, les communes. Ce programme s'articule autour de 6 axes, qui est découpé en plusieurs actions. Par action, il est défini le porteur du projet, le territoire concerné, la date d'exécution, combien et qui finance. Et vous avez le détail de ces différents axes dans le document que vous avez reçu.
C'était suffisant, beaucoup.
J'ai pris votre parole, monsieur le maire.
Alors, je propose de passer au vote, donc.
Donc, du coup, s'il n'y a pas de questions.
Qui est contre?
Comme nous en avons délibéré, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'exposé qui précède, d'adopter les termes de la convention cadre financière relative au PAPI des petits côtiers toulonnais pour les années 2018 à 2021, qui est annexée à la présente délibération,
d'autoriser le maire du Pradé à signer la convention cadre ainsi que ses éventuels avenants et tout acte nécessaire à son exécution. De dire également que M. le maire du Pradé réalisera toutes les opérations inscrites au contrat dépendant de sa maîtrise d'ouvrage dans le cadre du vote annuel des crédits nécessaires et sous réserve de l'obtention des accords de subvention par les différents financeurs propres à chaque action, dans le respect de l'échéancier annexé à la convention cadre. De dire également que la métropole Toulon-Provence-Méditerranée assurera l'animation et le pilotage du PAPI des petits côtiers toulonnais de 2018 à 2021 et mettra les moyens humains et matériels y afférents. Et de dire en dernier que les crédits seront inscrits au budget de la commune pour la durée du PAPI et seront ventilés sur différentes opérations créées et d'imputer les recettes sur les crédits ouverts au budget principal. Ah, il y a des questions.
Monsieur Fior.
Une question, on va voter pour, il n'y a pas de débat sur le sujet. La dernière phrase que vous avez prononcée, c'est de dire que les crédits seront ouverts en 2018-2019 sur le budget de la commune 2020-2021. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'enveloppe des crédits 2018-2019, 2020-2021 pour la commune du Pradé ? Oui, je peux répondre. Sur les trois années que dure le PAPI, la commune du Pradé devra engager 2000 euros sur les trois années.
Qui contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour unanimité ? Je vous remercie. Question numéro 21. Donc 21 et 22, en fait, c'est pour le même sujet. Il s'agit de régulariser du foncier qui a permis de réaliser cette entrée de ville ouest du Pradé. Voilà, donc il y a deux délibérations, la 21 plus la 22. Ce sont deux acquisitions foncières qui se font toutes les deux à l'euro symbolique. Donc merci aux différents propriétaires qui nous ont permis de réaliser cette magnifique entrée ouest du Pradé. Donc pour la délibération numéro 21, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Et la 22, contre ? Abstention ? Pour ? Unanimité également. La question numéro 23, elle concerne, elle, une convention avec la société Cellnex. Donc c'est pour en fait que Bouygues puisse installer une antenne mobile sur le pôle sportif. Voilà, il y a déjà SFR avec qui on a une convention, il y a Orange et il y a Bouygues maintenant. Monsieur Fior.
Est-ce qu'une concertation a été menée avec les riverains ? Est-ce qu'une étude d'impact a été menée ou pas ?
Tout intérêt. Alors, avant d'installer une antenne, il y a une procédure qui est imposée aux opérateurs, pas forcément à la commune, mais aux opérateurs pour des études d'impact, des études d'implantation. Alors, quand on installe des antennes, il y en a assez souvent, en fait, des installations d'antennes. Soit on les installe sur des parcelles publiques. Donc là, il y a une redevance de 10 000 euros par an. Soit c'est installé sur des parcelles privées ou des immeubles privés. C'était le cas sur la première DFL, par exemple. Il y en a une en cours d'installation à Saint-Père. Donc il y a des antennes mobiles qui se font en quasi-permanence. Et c'est soumis à un certain nombre de régulations. Donc tout le travail a été fait par l'opérateur. Et ils déposent un dossier à Arcep, en fait, à chaque fois.
Merci de votre réponse. Moi, je lis quand même dans le dossier que vous nous avez donné, à la demande du maire, le dossier d'information peut contenir une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générés par l'installation selon les lignes directrices publiées par l'Agence nationale des fréquences. Le dossier d'information et la simulation d'exposition, lorsqu'elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune concernée au plus tard 10 jours après leur communication au maire. Marquez 10 jours, peut-être que vous n'y arriverez pas. Les habitants ont ensuite 3 semaines pour formuler leurs observations lorsque le maire leur ont donné cette possibilité. Ma question était, avez-vous donné cette possibilité ? Donc j'entends que la réponse est non. Et la deuxième élément de ma question, c'était, avez-vous mené une concertation avec les riverains ? Et là, j'ai pas eu de réponse.
Parfait.
Alors, dans ce cadre-là, nous voterons contre.
Alors, qui est contre ? Madame Deligne, une question.
Oui, non, c'est pas une question, c'est une observation. D'autant plus que c'est au milieu du stade, entre le stade de rugby et le stade de foot, et que c'est inondé d'enfants le week-end et le mercredi. Si vous avez...
Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà les antennes là-bas. Hein. Et les premières,
continuons alors, rajoutons-en, c'est bien, vous avez raison.
Et les premières... lumières, c'est pas moi qui les ai installées, mais bon, j'assume qu'il y a déjà eu des antennes installées, qu'il y en a encore, mais les antennes, il y en a partout qui sont installées sur la commune. Alors, c'est toujours pareil, les gens, je pense que tout le monde autour de cette table et au-delà, on a tous un téléphone mobile, on est bien content d'utiliser un téléphone mobile et des data, mais on ne veut pas d'antenne. C'est le problème, c'est s'il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas de mobile. Donc, effectivement, il y a des choix. Le choix est une quasi-obligation aujourd'hui pour éviter les zones blanches, c'est d'installer les antennes. On a plus de demandes d'un certain nombre d'opérateurs pour continuer à installer les antennes. Et à chaque fois qu'on installe une antenne, il y a des recours en quasi-permanence sur les permis de construire qui sont fâchés ou les permis de travaux qui sont fâchés. Il y a des recours qui sont faits contre les opérateurs. Libre aux différents riverains ou aux gens qui sentent que ce projet ne va pas se faire, de faire un recours. C'est fait systématiquement. Quasi systématiquement.
Mais notre intervention n'était pas sur il faut faire des recours, il faut aller devant le juge, etc. C'est pas ça. Notre sujet, c'est que vous aviez la possibilité de demander une étude d'impact, une étude qui serait agréée, qui démontrerait le taux d'exposition réel, qui démythifierait peut-être la problématique des antennes, etc. Ça, c'était le premier point, ça ne vous coûtait rien, il suffisait de le demander. Deuxièmement, vous installez une antenne, il y a des riverains en périphérie, la moindre des choses, me semble-t-il, mais bon, c'est les associer au projet, de voir ce qu'ils en pensent. Après, vous ne le faites pas, c'est ok, dont acte, on va voter contre l'absence de concertation, contre l'absence d'information, pas forcément contre le fait d'avoir une antenne.
C'est toujours pareil, absence d'information, on passe à délibération au conseil municipal, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'information, il y a une information. Il y a une information qui est faite devant le conseil municipal, devant les élus. Voilà. Donc l'information est faite. Peut-être que ça ne vous convient pas, c'est peut-être pas fait comme vous l'aurez fait. Mais l'information est faite et je ne peux pas vous laisser dire que l'information n'est pas faite. C'est faux. Ça passe en conseil municipal. On ne l'a pas installé en catimini. D'ailleurs, quand on a passé les effets l'année, vous avez voté pour, me dit-on. Et je vous crois. L'année dernière, il y a déjà eu SFR qui est passé en convention. Vous aviez voté pour l'année dernière.
Est-ce que je viens de vous dire, vous avez entendu mon propos, on vous a dit qu'on était contre parce que vous n'avez pas mené de concertation, parce que vous n'allez pas utiliser les moyens que la loi vous donne pour donner de l'information vérifiée, fiable, aux personnes et aux membres du conseil municipal. Pas contre, par principe, parce que c'est une antenne. On n'est pas hors sol.
Donc, qui est contre ? Abstention pour. Je vous remercie. Question numéro 24 et 25, Paul Moreau. Ça concerne les demandes de subvention.
Mesdames, Messieurs, bonjour, chers collègues. Cette délibération a pour objet de renouveler le parc vieillissant destiné aux festivités. En considérant cette importance, nous avons demandé à la métropole de nous débloquer fonds de concours à hauteur de 22 410 € hors taxes et également 22 410 € en autofinancement pour la commune pour renouvellement de ce parc.
Si, Monsieur Fior.
Si je comprends bien la délibération, c'est un fonds de concours métropolitain 2019 sur l'enveloppe des fonds de concours que la commune possède vis-à-vis de la métropole. Ce n'est pas un fonds de concours exceptionnel.
Non.
On est d'accord ?
Alors, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. La 25, donc.
Alors, la demande de subvention au titre de la dotation à soutien à l'investissement public local. La nécessité de soutien financier concernant la rénovation énergétique, concernant le chauffage, le système de chauffage de l'hôtel de ville, et nous avons là aussi demandé un fonds de concours pour le financement global de cette opération. 350 000 euros et répartis selon le plan de financement en autofinancement 175 000 euros et pour la DSIL 2019 175 000 euros hors taxe également.
Merci. Monsieur Fior.
Eh bien, on voudrait en savoir un peu plus sur la manière dont vous avez, dont vous envisagez de rénover l'hôtel de ville. Vous nous mettez quoi, du gaz, de l'électricité, de la clim, du solaire.
Dans un premier temps, nous allons déjà refaire tout ce qui est ouvrant. Nous allons déjà commencer une partie en rez-de-chaussée. Il y a beaucoup d'isolation à reprendre. Ensuite, en termes de chauffage, nous allons décider sur le chauffage le plus économique possible. Aujourd'hui, c'est à l'étude.
Et comment vous êtes arrivé à 350 000 alors ?
En faisant une moyenne sur les types de chauffage qui nous sont proposés, soit la climatisation, soit les pompes à chaleur, soit le gaz, et on arrive à une enveloppe de 350 000.
Contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. Questions 26 et 27, ça concerne la vie associative, Valérie Rialan.
Merci Monsieur le maire, si vous voulez bien, je vais vous présenter les deux conventions à la fois. Donc effectivement, il s'agit de renouveler deux conventions d'objectifs et de moyens qui arrivent à échéance, une avec les nounous et les petits bouts, et l'autre avec le tennis club Pradétang.
Numéro 26, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. Et la 27, contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Je profite, donc c'est la fin du conseil, je voudrais simplement faire une annonce, puisque Magali Vincent n'est pas là aujourd'hui, c'est l'heureuse maman d'un petit Marius. Voilà, un nouveau petit Pradétang qui est arrivé il y a 15 jours, si je ne dis pas de bêtises, le petit Marius. Voilà, donc elle n'est pas là et je voulais le partager cet événement heureux avec vous, avant de laisser, comme toujours avec plaisir, la parole à M. Fior.
Merci, Monsieur le maire. J'ai attendu la fin du conseil pour mettre un point et poser une question qui n'était pas prévue à l'ordre du jour, qui est en rapport avec ce que vous avez écrit dans le Pradé magazine. Et qui est en rapport avec l'article qui est paru ce matin dans Var Matin sur le fait qu'il y aurait eu, j'emploie le conditionnel, un incident sur la grue du chantier Jean Jaurès, incident que vous auriez qualifié de sabotage et dans lequel, dans le Prademag, vous traitez les gens qui ne pensent pas comme vous. Agissements criminels. Que des agissements criminels soient commis au nom de divergence d'opinion. J'ai bien lu la phrase, je viens de vous la lire. Donc ce sont des agissements criminels pour des divergences d'opinion. La divergence d'opinion, c'est avec vous, monsieur le maire. Moi qui suis le premier représentant de la divergence d'opinion, est-ce que vous voulez dire que je suis un criminel et que j'ai des agissements criminels? Est-ce que vous voulez dire que les riverains ont des agissements criminels parce qu'ils ont déposé un recours contre un permis de construire? Est-ce que vous voulez dire que les 2000 personnes qui ont signé la pétition et qui étaient contre ce projet ont commis des agissements criminels? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur le maire? Franchement, un agissement criminel, les mots ont un sens en français. Un crime, c'est même pas un délit, c'est un crime. Qu'est-ce qui vous permet, mais oui, mais je m'exprime, qu'est-ce qui vous permet objectivement de qualifier d'agissement criminel l'incident dont vous dites avoir connaissance? Alors, je vous demande officiellement la copie du dépôt de plainte que vous auriez déposé, puisque a priori vous avez déposé plainte au nom de la commune, donc je suppose qu'en tant que conseiller municipal, je peux avoir accès à ce dépôt de plainte. Et d'autre part, je vous demande de nous expliquer, au sein du conseil municipal, quels sont les éléments précis qui vous permettent de relier les faits que vous auriez constatés à un délit d'opinion. Je vous écoute et je suis prêt à vous entendre là-dessus.
Ce que j'aurais aimé entendre de votre part, c'est condamner fermement ce qui s'est passé. Ce que je n'ai pas entendu, ce qui est fort dommage.
Pourquoi ça s'est passé?
Écoutez, M. Fjord, je vous ai laissé parler, vous me laissez parler, parce que c'est un peu facile d'interrompre les gens quand on veut de faire les questions et les réponses. Moi, je vous réponds. Ce qui s'est passé, c'est criminel. Il y a eu 4 pneus crevés en juillet. 4 pneus crevés déjà sur le chantier. Ensuite, on sabote une grue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport d'expertise. Alors, moi, j'en fais des chantiers, j'en vois un certain nombre. C'est le seul sur lequel il y a des agissements de la sorte qui arrivent. Alors, il y a des gens qui créent un certain climat, peut-être au Prodet. Oui, il y a des gens qui sont violents, peut-être, certainement. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des sabotages, selon le rapport d'expertise. Il y a eu du sabotage, et les gens qui vont saboter une grue, qui vont crever les pneus, c'est pour empêcher que le chantier avance. Parce qu'ils ne sont pas contents. Voilà. Et je pense que le rôle d'un élu, le rôle d'un responsable politique, le rôle d'un élu, y compris de l'opposition, c'est de dénoncer ce type d'agissement. Votre rôle, c'est de dénoncer ce type d'agissement. On ne peut pas cautionner le fait que les gens aillent pirater une grue. Enfin, je ne comprends même pas que vous osiez poser la question. C'est un acte qui est condamnable, c'est un crime, effectivement, c'est un acte criminel qui doit être condamné si on arrive à retrouver les auteurs de ce crime. Et je ne vois pas ce qu'il y a. Vous vous sentez peut-être visé, je ne vous ai jamais accusé. Peut-être que vous vous sentez visé, mais je ne vois pas pourquoi.
Premièrement, nous n'avons strictement aucune information sur ce qui s'est passé sur ce chantier. Je suis désolé. Vous nous avez fait la moindre communication sur ce sujet-là? Ah, c'est dans la presse. Ah, si c'est dans la presse, alors ça doit être vrai, hein, c'est sûr. Donc, premièrement, on n'a aucune information. Deuxièmement, vous mêlez des éléments qui, ont, a priori, n'ont pas forcément grand-chose à voir.
Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé?
Oui, d'après... Non, mais laissez-moi terminer. D'après l'information que vous nous donnez aujourd'hui, donc il y aurait eu 4 pneus de crevés au mois de juillet, et donc un incident avec une boîte électrique de grue. Au mois de, je ne sais pas quand, novembre, voilà. Et ça se relie ensemble, de manière obligatoire. Et vous êtes une personne qui est capable de dire, c'est un acte criminel, en dehors du fait que ce n'est pas un crime, au minimum, au maximum, c'est un délit. Deuxièmement, monsieur le maire, délit d'opinion, vous faites juge, parti, et vous accusez votre opposition de manière éhontée. Vous êtes officier de police judiciaire. Il faudrait quand même être un peu redescendre sur terre. Le court-circuit, il n'est pas dans la grue, là. Hein. Franchement, vous nous accusez de quoi? Parce qu'on est en opposition avec vous, on va...
Monsieur Fior, je ne peux pas vous laisser dire les choses pareilles. Je ne vous accuse de rien. J'accuse les gens qui ont commis l'acte. Je vois pas, ça m'inquiète que vous sentiez visé. Bah, vous sentez visé, c'est votre problème, c'est pas le mien.
Commis l'acte, puisque vous le savez, pour l'accuser.
Il y a une enquête en cours. Il y a une enquête en cours. On verra bien si on trouve quelqu'un. Voilà, j'espère que la police arrivera à trouver le fauteur du crime. Et moi, ces agissements qui sont des agissements criminels, profitez-en, vous êtes conscient de condamner cet acte et condamner tous les gens qui créent ce climat de violence.
Elle commencerait par me donner, avant de condamner quoi que ce soit, ok, vous avez évoqué un PV d'enquête. Un rapport d'enquête de je sais pas quoi. Communiquez-le aux membres du conseil municipal. Vous avez déposé plainte, soi-disant, communiquez la plainte au conseil municipal. Et avant de condamner les gens, ce sont les juges qui condamnent les gens. Ce n'est pas des tribunaux politiques. Et les délits d'opinion, ils n'existent pas en France.
Vous décidez de ne pas condamner ce qui a été commis, c'est votre responsabilité. Monsieur Fior, n'interrompez pas, s'il vous plaît. Donc, il y a les décisions en communication, vous avez dû en prendre connaissance. Je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux Noël. L'esprit de Noël, c'est ce qu'il y a de plus joli. Donc, je vous souhaite de très, très belles vacances, un joyeux Noël en famille, avec les enfants, les grands-parents, les parents. Et puis, donc, à très bientôt avec la forêt magique qui ouvrira le 21 décembre, après le magnifique feu d'artifice qu'on a fait la semaine dernière, qui a ravi petits et grands. Très bonne journée, merci de votre présence.